Oui, donc on a dit que comme c'est la semaine avant Rosh Hashanah et la semaine prochaine sera la semaine avant Yom Kippour, donc on va étudier un petit peu Higueret HaTeshuvah. On va parler, c'est une très très belle lettre de l'Admor HaZaken qui parle de la Teshuvah. D'accord ? Là on y va. On est à la page 180. Perek Aleph Tanya. C'est enseigné Besof Yoma. C'est enseigné à la fin du traité Yoma. Donc le traité Yoma, c'est un traité dans la Gemara qui est dédié au jour du Yom Kippour. Yoma en araméen, ça veut dire le jour. D'accord ? Comme Yom en hébreu, c'est le jour. Donc Yoma, c'est le jour. Alors on dit même pas le jour de Kippour, parce qu'en hébreu, quand on dit le jour, tout le monde sait de quel jour on parle. C'est clair. Donc Tania Besof Yoma, c'est enseigné à la fin du traité Yoma. Shlosha Chiluke Kapara Hem ou Tshuvaim Kolechad. Il existe trois types de pardon, ça veut dire trois types de choses sur lesquelles on doit demander pardon. Ou Tshuvaim Kolechad, d'accord ? Il y a une Teshuvah qui correspond à chacun de ces trois types. Ça veut dire qu'en vérité, pour comprendre d'abord sur quoi on fait Teshuvah, il faut d'abord comprendre, d'accord, quelle catégorie d'Averot il y a. S'il y a 613 mitzvot, et ben, il y a 613 catégories. Non, pas du tout. En fait, il y a trois grandes catégories. Et dans ces grandes catégories, on a plusieurs types de mitzvot. D'accord? Alors, il va. Non, c'est bon, t'inquiète, continue. Ça va? Bonsoir. Donc, il dit, Avar al mitzvot assez. Trois catégories. Donc ça, le début, je l'ai déjà fait, on a déjà parlé un petit peu au cours de, pour ceux qui étaient là, au cours de Shabbat après-midi. Avar al mitzvah tassé. Tu vois dans les mots?
Ouais.
Si une personne a transgressé une mitzvah positive, par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Donnez-moi des exemples. D'accord? Mitzvah positive, qu'est-ce qu'il a fait? Vous êtes avec moi ou pas?
Oui, j'avais dit.
Alors, par exemple, donnez-moi.
Il a pas mis les tchilines.
Il y a une mitzvah positive qui te dit tu mettras les tchilines. Il y a une mitzvah positive qui te dit le vendredi soir tu feras un kiddush. Il y a une mitzvah positive qui te dit à la porte de ta maison tu auras une mezouza. C'est une mitzvah positive. Si une personne n'a pas de mezouza à la porte de sa maison, il n'a pas fait d'interdit. D'accord ? Il n'a pas fait l'interdit. Il n'y a pas un interdit dans la Torah qui te dit attention, si à la porte de ta maison, il n'y a pas de mezouza. La Torah te demande de faire quelque chose, donc tu as transgressé une mitzvah positive. C'est-à-dire tu n'as pas fait ce que je t'ai demandé. Ça, c'est une mitzvah positive. Mitzvah négative, c'est Dieu te demande clairement de ne pas faire quelque chose. Je vais vous donner un exemple. Imagine-toi par exemple, je demande à mon fils, je lui dis, va s'il te plaît à Costco à côté, va m'acheter un bocal de café. Donc c'est une mitzvah positive. Il va chez Costco, il n'achète pas le bocal de café. Il a transgressé une injonction positive. D'accord ? Parce que je lui ai dit demander de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Bon, il le fera la prochaine fois. Par contre, si je lui ai dit, attention, tu vas là-bas, n'achète pas de bonbons. Et il a acheté des bonbons. Là, c'est plus grave. Pourquoi c'est plus grave?
Parce que c'est un interdit.
Parce que c'est un interdit. C'est pas qu'il a oublié de faire quelque chose. Il a fait un interdit. D'accord? Donc, faut bien comprendre parce que ça va être le thème du cours d'aujourd'hui. Quand on analyse les mitzvot, faut bien comprendre la différence qu'il y a entre les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Alors, il va expliquer tout de suite que ça veut pas dire qu'il y a des mitzvot plus importantes et moins importantes que d'autres. Hasbe Shalom de parler comme ça. Il n'y a pas de catégorie dans les mitzvot. Mais, on verra que par rapport aux dommages, aux dégâts qu'on fait en causant une avéra, parce que chaque avéra qu'on fait, on fait un dégât. Il n'y a pas de, c'est-à-dire, il n'y a rien qui est laissé au hasard. On a fait une avéra.
Un dégât envers qui?
Un dégât envers notre Neshama.
Ah, d'accord.
Voilà, toi tu aimes les Ferrari. Quand tu maltraites une Ferrari, d'accord? Même si elle ne te montre pas tout de suite, mais il y aura forcément des conséquences.
Bien sûr.
On peut pas maltraiter.
C'est bon.
On est d'accord?
Tout à fait d'accord.
Alors, il y a deux catégories.
C'est la jaune ou la verte?
Rouge.
Il y a deux choses. Ah, il est original. C'est l'origine. C'est...
Alors, page 200.
Bonsoir, 180.
Non, bon, 180, d'accord.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on prend la bonne habitude. Voilà. Tu arrives juste pour.
Pile-poil.
Je reprends. Nous avons en général dans la Torah deux catégories de mitzvot. Des mitzvot positives et des mitzvot négatives. Mitzvot positive, c'est quand, par exemple, Dieu me dit, tu feras quelque chose et la transgresser, c'est-à-dire, je ne l'ai pas fait. Donc, comme l'exemple, pour ceux qui n'étaient pas là, comme l'exemple que je donnais tout à l'heure, je dis, imagine-toi, par exemple, que je demande à mon fils, je lui dis, va à Costco à côté, m'acheter un bocal de café. Il est parti, il ne me l'a pas acheté. C'est pas bien ce qu'il a fait. Mais je ne peux pas dire qu'il a fait quelque chose d'interdit.
Il a pas fait
quelque chose que je lui ai demandé. Par contre, commettre une mitzvah négative, c'est par exemple, je lui dis, va là-bas au magasin, je lui dis, et n'achète pas de bonbons. et il achète les bonbons. Là, c'est plus grave. Parce qu'il est parti contre un interdit absolu. C'est pas qu'il a oublié de faire, ou il a pas voulu faire quelque chose.
C'est pas une omission.
C'est pas une omission. Il est parti à l'encontre d'une interdiction. Donc c'est, en hébreu, retenez bien ce terme, mitzvot asé, mitzvot lota asé. Les mitzvot asé, asé, ça veut dire fait, donc c'est des mitzvot positives, comme mettre les tefillines, dire le schéma, avoir une mitzvah à sa porte, c'est des mitzvot positives. Manger de la matzah à Pessah, c'est des mitzvot positives. D'accord? Donc celui qui ne met pas les tefillines, par exemple, il n'a pas fait de mitzvah négative. Il a omis d'accomplir une mitzvah positive.
D'accord.
Et on a des mitzvot, lota asé. Lota asé, c'est-à-dire des mitzvot, tu ne feras pas tes mitzvot négatives. Maintenant, la Gemara, dans le traité Yoma, elle va nous expliquer maintenant que chacune des catégories de mitzvot, là, pour l'instant, on a parlé de deux catégories de mitzvot, les mitzvot positives, les mitzvot négatives. Mais la Gemara Yoma va expliquer aujourd'hui, dans ce qu'on va dire ici, qu'en vérité, c'est pas deux catégories de mitzvot qu'il y a, mais c'est trois catégories de mitzvot qu'il y a. Et chacune des trois catégories aura la teshuva correspondante. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Le thème, c'est la teshuva. OK? Donc, dans les mots. Avar al mitzvat as, c'est le début de ça, on a déjà fait pour ceux qui étaient là au cours de Shabbat après-midi.
Quelle page?
180.
180.
Fin de la première ligne. Deuxième ligne. Avar al mitzvat as, c'est si une personne a transgressé une mitzvah positive, même Aïn, c'est mitzvat as. Veshav, et il a fait teshuva. Einozaz mishav atimuchalim lo. Il ne bougera pas de là-bas, c'est une expression, jusqu'à ce qu'on lui pardonne. Ça veut dire que quand on a transgressé une mitzvah positive, par exemple, j'ai oublié de faire le schéma, j'ai oublié de mettre les tefillines, chas v'shalom, et je m'en souviens, ça y est, c'est déjà la nuit. Alors, tu peux obtenir une teshuva instantanée. C'est quoi la teshuva instantanée? C'est-à-dire que ça veut dire que tu vas regretter sincèrement ce qui s'est passé, et tu vas prendre des bonnes résolutions pour plus que ça se reproduise.
Et
par
si
exemple.
J'ai pris un jambon au beurre aussi, je peux?
Ah non. Là, t'étais à l'encontre d'une mitzvah négative.
Ça, c'est l'OTA, c'est.
J'ai compris, mais ça, c'est autre chose. C'est négatif, on verra après.
Tu vas prendre un jambon.
D'accord?
J'ai oublié qu'il y avait du beurre. Ouais.
Tu peux plaider Alzheimer.
Alors. Je t'arrête de dire. Donc, par exemple, une personne, il se rend compte le soir qu'il a pas mis les tefillines. Il a transgressé une mitzvah positive. Ça veut dire qu'il a omis d'accomplir quelque chose que la Torah lui demandait de faire. Il fait teshuva. Ça veut dire quoi faire teshuva? Faire teshuva, c'est-à-dire qu'il va regretter sincèrement ce qui s'est passé et qu'il va prendre des bonnes résolutions pour pas que ça re-arrive. Alors, bien sûr, tout le monde veut que ça re-arrive pas. Il va prendre des résolutions concrètes. Il va dire, par exemple, pourquoi j'ai oublié de mettre les téfilines? Parce que j'ai fait 10 000 choses avant. Je les ai pas fait la première chose le matin. D'accord? D'abord, j'étais sur Internet, mes mails, etc. Et après, les coups de fil, et ben, de fil en aiguille, ça y est, c'est déjà la nuit, surtout en hiver.
Donc, urgence, en
fait. Oui, bien sûr. Donc, c'est quoi faire teshuva? C'est je dis, bon, visiblement, mon point faible, c'est ça, c'est qu'une fois que je suis dans les affaires, bah, c'est fini, j'oublie. Alors, je vais prendre une bonne résolution de faire tout mon possible, bien sûr, pour faire des urgences, mais de faire tout mon possible pour les mettre le matin avant de partir au boulot. Ça s'appelle faire teshuva. C'est une teshuva concrète. C'est-à-dire que je montre, je regrette ce que j'ai fait, et j'explique, entre guillemets, à Kadosh Baruch Hu, en vérité, c'est à moi que je m'explique pourquoi je pense que je le recommencerai plus. Peut-être ça me re-arrivera, mais en tout cas, j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour que ça ne re-arrive pas. Ça, nous dit la Gemara dans le traité Yoma, une personne qui fait une teshuva sur une mitzvah positive, Dieu lui pardonne tout de suite. Il n'a pas besoin d'attendre Kippour. C'est-à-dire le soir même, d'accord, 23h30, il réalise, il fait teshuva, il dit dorénavant, je les mettrai le matin, pac, teshuva, c'est fini, en haut, c'est, ça y est, on a barré. Ça, c'est parce qu'il a transgressé, il a omis d'accomplir une mitzvah positive. Mitzvah négative, c'est plus compliqué. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on catégorise les mitzvot et que le mitzvah positif, c'est moins grave ou plus grave. On va développer tout de suite pourquoi il y a une différence. Mais d'abord, je dis la Gemara. Dans les mots. Avar, fin de la troisième ligne. Avar al mitzvat, même la metav, c'est mitzvat lo ta'asé. Si une personne a transgressé une mitzvah négative, page 180.
D'accord, donc c'est la quatrième ligne.
Veshav. Et il a fait teshuva.
Deuxième mot.
Teshuva tola. La teshuva fait seulement que suspendre. Suspendre quoi? Suspendre la punition. Ça veut dire que Dieu il met en stand-by, et quand on va régler le problème?
Demain matin.
À qui pour?
C'est comme stand-by. Hein.
Stand-by. Non, stand-by. Et à qui pour? Non, stand-by, c'est on fait rien. C'est comme un juge qui dit, bon, on retraite le dossier à qui pour? Ça dépendra de tes choix à qui pour. Pourquoi? Parce qu'en vérité, la teshuva, l'énergie que la neshama développe toute l'année, n'est pas suffisante pour effacer l'erreur, pour effacer une avéra négative. Il faut une énergie beaucoup plus forte que la neshama arrive à déployer seulement le jour de Yom Kippour. Donc c'est pour ça, Dieu y met en suspens. Et dès qu'arrive le jour, bonsoir, et dès qu'arrive le jour de Yom Kippour, c'est là qu'on pourra obtenir une teshuva complète. Tu as la page?
Je peux trouver.
Dans ma lavage.
1, 2, 3, 4, 5 amis au milieu. 180.
Oui, c'est pas le mieux.
C'est sûr, c'est pas. Oui, oui.
Tiens. Ok. Donc, Tshuva Tola, Veya Makipuri Mechaper. La Teshuva suspend. D'accord, vous, le début, vous connaissez déjà. Vous étiez au début du cours de Shabbat après-midi, quand on a parlé des trois catégories d'Averot. D'accord? Parce que là, en fait, on va développer ça. Donc, on a dit 4 mitzvahs positives, mitzvahs négatives. Celui qui a transgressé une mitzvah positive et qui fait teshuva, le pardon lui est accordé sur place. Celui qui a transgressé une mitzvah négative, comme par exemple, c'est quoi une mitzvah négative? Par exemple, Dieu dit, tu ne travailleras pas le Shabbat. Et il a travaillé le Shabbat. D'accord? Tu frapperas pas ton prochain. Tu diras pas de la chanara.
La prochaine.
D'accord?
Tu ne voleras point.
Tu ne voleras point, tu ne tueras point, etc. Et qu'il l'a fait. Donc là, c'est plus compliqué.
Tu ne mangeras point
de tu convoiteras pas la femme de ton prochain. D'accord?
Il faut quand même que tu penses tes chouvas sur place pour que ça reste en stand-by.
Alors, même si tu fais tes chouvas sur place, ça reste en stand-by.
D'accord.
La teshuva peut seulement faire un stand-by. Et c'est seulement le jour de Yom Kippour, ça sera réglé.
C'est suspensif.
Il y a une troisième catégorie qu'on verra après, parce qu'il va ouvrir une parenthèse juste après. Troisième catégorie, c'est une personne qui a transgressé une mitzvah sur laquelle on est chayav karet. Chayav karet, il y a certaines avérotes qui sont tellement graves que celui qui les fait, il est retranché du peuple juif. Alors, retranché du peuple juif, ça veut dire quoi? Techniquement, ça veut dire que c'est comme si on pourrait dire, il y a un fil qui nous connecte à Kadosh Baruch Hu, et quand on fait d'avérotes comme ça, le fil est coupé. Dieu, il coupe le fil.
Quand tu manges du pain à Pessah, ça.
Alors, à l'époque du Beit HaMikdash, je vais donner des exemples tout de suite. À l'époque du Beit HaMikdash, les gens qui étaient chayav karet mouraient avant 60 ans. Et c'était technique, physique, hein.
C'est les
gens
qui. Rachat, quoi,
c'est... Alors, c'est quoi l'averot sur lequel on est chayav karet? Par exemple, celui qui mange à Kippour. Ouais, celui qui mange à Kippour. Celui qui mange du Hametz à Pessah. Celui qui ne fait pas la Brit Mila à ses enfants. Vous voyez, c'est d'averot grave. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous voyez que même les gens qui se disent pas religieux, sur les trois exemples que je viens de vous donner, en général,
ils respectent.
C'est pas par hasard.
Quand tu manges Hametz, c'est avec intention de le faire.
Manger du pain à Pessah,
c'est aussi. C'est avec intention, oui.
Travailler avec un Ashkenaz.
Pourtant, ne pas faire la Brit Mila, il n'y a pas d'acte.
Si. Chaque jour qui passe sans que tu aies fait la Brit Mila, tu es chayav karet.
Ça, c'est le père qui est chayav karet.
Non. Le père, il est chayav à la place de son fils, et le jour où le fils devient bar mitzvah, ça devient sa responsabilité. Bien sûr.
Okay.
Le père, il fait à la place de son fils parce que son fils n'est pas en état.
Oui.
Donc, il est le tuteur de son fils.
Oui.
Mais en vérité, c'est un chiouv, c'est une obligation qui incombe à la personne.
Il
n'y a pas de punition. Parce qu'on peut toujours réparer le problème. Jusqu'au jour de sa mort, on peut lui faire la mila. Le jour où il va mourir, Dieu préserve, s'il n'a pas fait la brit mila, bah, directement, son fil est coupé. On va expliquer après, ne vous inquiétez pas. C'est pas le but.
Excuse-moi, c'est grave. Manger du Hametz pour un Pessah. Quelqu'un qui sait pas, qui fait plus ou moins, tu vois, bon, il fait cachère, il achète des trucs.
Seulement quand c'est intentionnel.
Intentionnel. Ah oui, d'accord. Parce qu'il dit, bon, lui, c'est pas rien.
Là, on parle que des choses intentionnelles.
Il y a une volonté de ne pas le faire.
D'accord. Maintenant, quand on voit ces trois catégories. Alors, justement, pour celui qui fait dans cette troisième catégorie, là, la Teshuva et Yom Kippour mettent en stand-by.
C'est pas valable.
Il attend quoi?
Et on attend quoi?
La mort.
La mort.
Waouh.
Il n'y a que la mort qui parfait entièrement la teshuva. Alors, avant de développer ça, parce qu'on va, ça, il faudrait qu'on développe bien. J'en ai juste parlé très rapidement Shabbat, là, on va bien développer ça. Regardez. Quand on lit cette Gemara, c'est une Gemara, ce que je viens de vous lire ici, les trois catégories de Averot, avec les trois, teshuva qui correspondent. On pourrait avoir l'impression qu'il y a des catégories dans les mitzvot, et qu'il y a des mitzvot plus importantes que d'autres. Puisqu'on vient de dire que pour une mitzvah positive, on se fait pardonner sur place. Alors que pour une mitzvah négative, il y a deux catégories. Mais première catégorie, on se fait pardonner qu'à Kippour. Donc, est-ce que ça voudrait dire que le mal qu'on cause en commettant une mitzvah, en omettant d'accomplir une mitzvah positive, est-ce que ça veut dire que le mal est moins fort?
A priori, oui.
Alors, non, si on lit cette Gemara, a priori, oui.
Est-ce que la teshuva est proportionnelle, en fait, à l'acte?
A priori, oui. Si tu me dis que c'est plus facile de m'excuser,
oui.
C'est-à-dire que le dommage était moins fort.
Ça semble être ça.
Tu comprends? Si on te dit, il te faut amener un bouquet de fleurs à 100 euros.
Ouais.
Et pour l'autre, on te dit, il te faut amener un bouquet de fleurs à 20 euros. Bah, c'est que le deuxième, il était moins grave, c'est sûr.
Ou tu t'es bien débrouillé pour avoir un bouquet à 100, à 20.
Il y a un problème.
T'as bien négocié.
Donc, quand on lit cette Gemara, on peut avoir l'impression que les mitzvot positives sont moins graves que les mitzvot négatives. Et beaucoup de gens pensent comme ça. Il va expliquer ici que c'est une erreur. Ah, pourquoi il y a des différences dans ce cas-là dans la teshuvah? Un, il se fait pardonner sur place et l'autre, il faut attendre. On va expliquer. D'accord? Dans les mots. Pirouche, ça veut dire, je suis à la fin de la quatrième ligne. Ah, falgav, deleinyan, kiyum, mitzvot, assez. Gdolash, dochatota, assez. Alors, d'emblée, il te dit non seulement que les mitzvot positives ne sont pas moins importantes que les mitzvot négatives, mais encore plus que ça. Une mitzvah positive, c'est plus important qu'une mitzvah négative.
Donc, il y a une notion d'importance quand même.
Pourquoi? Regardez. Ah. Imaginez par exemple une personne qui a la mila qui tombe Shabbat. Voilà, comme mon petit dernier. D'accord? Il y a une mitzvah positive qui te dit tu feras la mila. Il y a une mitzvah négative qui te dit tu n'as pas le droit de faire couler sang le Shabbat. Laquelle a pris le dessus?
La mila. Mitzvah positive.
D'accord? Ah oui, oui. Laquelle a pris le dessus? C'est la positive. Donc si elle a pris le dessus, ça veut dire quoi?
Elle est au-dessus.
Il y a des...
Donc ça veut dire qu'elle est au-dessus. Nous, on avait l'impression, dans ce qu'on a expliqué, que la mitzvah positive est moins grave que la mitzvah négative. La preuve, tu te fais pardonner plus facilement. Et tu dis, pas du tout. Tu dis, d'abord, il n'y a pas de catégorie dans la mitzvah. Et si déjà il y avait des catégories, eh ben c'est le contraire. C'est la mitzvah positive qui devrait être plus importante parce que c'est elle qui repousse la mitzvah négative. Quand il y a un conflit entre les deux, c'est elle qui repousse la mitzvah négative.
En même temps, ne pas faire un commandement positif, c'est pas pour autant faire une avéra. Alors que dans l'autre cas,
bien sûr, c'est une avéra.
C'est une avéra.
C'est une avéra, c'est considéré comme une avéra.
Bien sûr, c'est une avéra.
Le fait de ne pas avoir mis les tefillin.
Oui, je comprends. Tu les mets pas.
C'est considéré comme avéra. C'est-à-dire, c'est pas contre neutre. C'est-à-dire, je l'ai pas mis, j'ai pas gagné, mais j'ai pas pour autant. J'ai perdu, mais c'est pas, j'ai pas fait pour autant.
Tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé. Oui, tu vas faire les courses, ta femme elle te dit achète-moi ça. Tu lui as pas acheté. Tu as dit ça va, j'ai pas acheté, qu'est-ce qu'il y a?
Ouais,
mais je t'ai dit d'acheter. Mais ça va, qu'est-ce qu'il y a?
Alors chaque mitzvah que je ne passe et que je ne fais pas, et chaque commandement autre, je considère comme une avéra.
Bien sûr, c'est une avéra.
Quelqu'un qui loupe un mincha, un harvi ou autre.
Non, toi-même, c'est
une mincha. C'est pas une avéra, c'est qu'il a omis d'accomplir une mitzvah positive.
C'est pas une avéra.
Ça s'appelle une avéra.
Pas,
bien sûr, comme les tefillin, j'ai mis à mettre les tefillin, j'ai pas mis les tefillin, qu'est-ce que j'ai fait?
J'ai perdu une mitzvah.
Non, j'ai pas perdu, non, j'ai fait une avéra en omettant d'accomplir une mitzvah positive.
C'est un commandement.
C'est un commandement.
En fait,
c'est pas une recommandation une mitzvah, c'est un commandement. C'est-à-dire, je dois le faire.
Tu ramènes ça à ce qu'on avait étudié il y a quelques temps quand tu avais dit ce qui plaît à Dieu, c'est que tu obéisses.
Oui.
Donc tu es dans l'obéissance quand tu fais une mitzvah positive. Tu dois le faire. Si tu le fais pas, il y a des problèmes.
Oui, bien sûr. C'est un ordre. C'est comme l'État qui t'impose, par exemple, tu dois payer une taxe. Il faut payer, c'est tout.
Il n'y a pas
à discuter.
C'est ça, c'est une obligation.
C'est une obligation. Maintenant, j'ai volé personne, j'ai tué personne. Mise en négatif, ça aurait été le gars, il a braqué l'État. Bon, là, j'ai braqué personne, mais j'ai pas payé. Donc j'ai omis
de braquer l'État. Oui, c'est
vrai. Alors, je reprends. Dilad Morazaken, attention! Ne crois pas qu'une mitzvah positive est moins grave qu'une mitzvah négative parce que la teshuvah était plus facile. Au contraire, si des gens devaient catégoriser les mitzvot, une mitzvah positive est plus importante qu'une mitzvah négative. Pourquoi? Parce qu'elle repousse la mitzvah négative. Quand il y a le choix entre les deux, des fois il y a des conflits, c'est la mitzvah positive qui emporte. D'accord? Alors pourquoi dans ce cas-là la teshuvah est plus facile pour une mitzvah positive? Aïnou, ça veut dire mishum shaliyede kiyum mitzvah tase mamshir or vesheva beolamot eloni maharat orantsav baruchu. Je saute la parenthèse. Vegam al nafshel kut kemosh katou vacher kedeshenu mitzvotav. D'accord. Il dit en vérité, si on réfléchit, les mitzvot positives sont plus importantes que les négatives. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi c'est important de développer ça. Pourquoi c'est plus important? Parce que quand tu fais une mitzvah positive, tu génères quelque chose de nouveau. Tu amènes une nouvelle lumière d'Akadosh Baruch Hu. Chaque fois que tu fais une mitzvah positive, tu amènes la bracha, tu amènes une nouvelle énergie dans ta famille, dans ton corps, dans ta neshama, dans ton environnement. C'est une mitzvah positive. Quand tu fais une mitzvah négative, tu bloques ton corps de ne pas recevoir l'énergie qu'Akadosh Baruch Hu envoie. Donc il dit comme ça, il dit qu'en vérité par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est beaucoup plus grave de ne pas accomplir une mitzvah positive que d'accomplir une mitzvah négative. Parce que on doit chercher à s'entourer d'un maximum de kedusha. Donc, pourquoi une mitzvah positive repousse une mitzvah négative? Parce que dès qu'on peut faire amener la kedusha dans le monde, il faut le faire. C'est pour ça que dès qu'on a un choix entre une mitzvah positive et négative, la positive qui amène la lumière et la négative qui quelque part te protège, laquelle passe en priorité? La positive. Parce qu'on te dit, il faut amener de la lumière, il faut amener de l'énergie, il faut amener de la kedusha dans le monde. Ah, pourquoi c'est, dans ce cas-là, faire tes cheveux sur une mitzvah positive, c'est plus facile? C'est très simple. Il touche un peu à ce qu'Yves a dit. Il dit parce qu'en vérité, quand une personne a fait une mitzvah négative, c'est pas que c'est plus grave ou moins grave. C'est que le cran qu'il faut avoir le cran que la personne a eu pour commettre une mitzvah négative est beaucoup plus puissant que pour oublier de faire une mitzvah positive. Comme dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Ma femme m'a dit, elle va faire les courses. Je suis parti faire les courses, d'accord? Elle m'a dit, achète ça. Elle m'a donné une liste. Bon, il y a des trucs que j'ai oubliés. Bon. Je ne me suis pas révolté, j'ai rien fait, ça va, j'ai oublié. J'ai pas commis un crime. D'accord? Par contre, si elle me dit, attention, ne va pas dans ce magasin, va dans ce magasin, j'aime pas les fruits et légumes de ce magasin, et que je vais quand même blatter dans ce magasin. Là, je rentre à la maison. Là.
Hein? Moi, elle m'a dit, ce soir, j'ai fait les courses. J'ai oublié d'acheter le plat que M. Cohen il adore, les haricots blancs pour la prière. Elle m'a dit,
ah oui, c'est normal.
Alors,
vous aussi, vous ne pouvez pas être tunisien, hein, c'est tout.
Ouais. Donc, ce qu'il explique ici, l'Admor HaZaken, c'est qu'en vérité, on ne devrait pas rentrer maintenant dans des catégories de dire il y a des mitzvot plus importantes et des mitzvot moins importantes. Chas v'shalom. Toutes les mitzvot sont importantes, et si déjà, c'est même les mitzvot positives qui sont plus importantes. Seulement quoi? Pourquoi faire tes choix sur les mitzvot négatives, c'est plus compliqué? Parce que le cran qu'une personne va avoir, quand je te dis, ne le fais pas, et tu le fais, il faut beaucoup plus de cran que tu m'as demandé de faire quelque chose, j'ai pas pu. C'est pas la même chose. Voilà pourquoi faire teshuva sur une zone négative, c'est tellement compliqué qu'Akadosh Baruch Hu dit, pour faire vraiment teshuva, il faut attendre Kippour. Mais sur une mitzvah positive, comme c'est un oubli, ou bien j'avais pas la force, ou bien j'étais en train de faire les affaires, j'ai oublié, Dieu, il comprend que la personne peut oublier.
Une mitzvah négative, c'est comme si on avait cassé quelque chose, et pour le réparer, c'est très bien.
C'est pas seulement casser, c'est qu'il faut du cran pour le faire. Tu vas contre quelque chose qu'on t'a dit. Tu fais quelque chose qui t'interdit. Pas j'ai oublié.
C'est le premier idée, c'est vraiment.
Ah oui.
Chercher. Pour réparer,
etc. Comment, tu veux pas dire, j'ai pas fait exprès.
En réalité, c'est mise à l'épreuve. En réalité, du moment où tu décides de faire la tshuva jusqu'à Yom Kippour, pour une mitzvah négative,
c'est même pas une mise à l'épreuve, c'est que tout simplement, la Neshama n'a pas assez de force pendant toute l'année, le moteur, il n'a pas assez de force toute l'année, pour réussir à trouver la force en toi pour t'excuser auprès d'Akadosh Baruch Hu. Pour compenser le cran que tu as eu pour faire la Avera. Parce que, il faut du cran pour faire la Avera. Et pour contrer ce cran, il faut que la Neshama ait un cran terrible. Ce cran, elle l'a pas toute l'année, la Neshama. Quand arrive Kippour et que là, la Neshama est enclenchée, là, ça peut couvrir le cran que la Neshama a eu quand elle a fait la Avera. C'est technique. D'accord? Et pareil pour les avérotes très graves, pour les avérotes sur lesquelles on a créé Afkaret, qu'on a dit qu'il faut attendre la mort, c'est pareil. Parce qu'il y a des choses, qu'il n'y a que la mort, les instincts avant la mort, c'est des instincts qui sont très forts, et surtout après quand la Neshama s'en va.
Le fait de mourir?
Oui, le fait de mourir.
C'est pas de penser que quand tu vas mourir.
Non, le fait même de mourir.
Kadosh Baruch Hu et que tu balises ta race,
non.
C'est le fait de mourir.
Le fait de mourir, c'est un pardon. D'ailleurs, dans le Tzidouk Adin.
Et le type de mort en plus.
Même. Dans le Tzidouk Adin, qu'on dit quand une personne meurt, d'accord, le texte qu'on lit, on dit mitato tehe kaparato. On dit que sa mort, c'est son pardon. D'accord, parce qu'on considère que s'il y avait quelque chose, le fait même de mourir, ça enlève déjà, parce que il est mort. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui est que la mort qui peut enlever.
Tout le monde est pardonné quand il meurt.
Mais là, il a fait teshuva. Attendez, là, le bonhomme, il a fait teshuva.
On est pardonné à musulman, alors.
Oui, voilà. Non, j'ai compris ça.
Ne t'inquiétez pas, il est content.
Non, j'ai compris. Après.
Peut-être que tu ne peux pas tout récupérer dans ce monde-là, donc je vais t'ouvrir un peu dans l'eau.
Oui. Et d'attendre.
Je vais raconter une blague. Une fois au Guéhinnom, c'est une blague, hein. On dit qu'il fait très très chaud. Et une fois au Guéhinnom, il avait vraiment très 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 chaud. Et il y a eu une fissure qui s'est faite dans le mur qui donnait sur le Gan Eden. Et comme là-bas il y a la clim, alors il y a eu beaucoup d'air frais qui est venu du Gan Eden vers le Guéhinnom. Donc les gens du Guéhinnom étaient très contents. Mais les gens du Gan Eden n'étaient pas contents parce qu'ils ont dit, il y a une mauvaise odeur qui rentre par ce trou-là qui rentre chez nous. Alors, ils sont partis voir Akadosh Baruch Hu, din Torah, un jugement. Alors, il y a les tzadikim qui disent, nous on veut pas cette mauvaise odeur qui nous dérange. Les autres, ils disent, attends, pour une fois qu'on a un peu de clim, laissez-nous être votre clim. Alors, Dieu leur dit, allez trouver des avocats pour que chacun défende sa cause. Alors, les tzadikim répondent, ils ont dit, mais où vous voulez qu'on trouve les avocats? Ils sont tous en Guéhinnom.
Y a pas d'avocat dans la salle?
Ouais, j'ai entendu sur les mythes, ça, je recouche.
On le répétera. Léo, demain.
Il avait qu'à venir, hein, Léo.
Bien, pareil, vous m'avez mis dans le... Après, on referme. Une fois, pareil, il y a un avocat qui arrive en haut, il meurt à 37 ans. Il arrive en haut, et il voit le chef du tribunal qui se peut comme ça à dire son verdict, il dit voilà. Et c'est quelqu'un qui a vécu très très longtemps, il est décédé à 170 ans, et il a fait tel avéra, et lui il entend plusieurs fois, on répète 170 ans, à un moment il craque, il dit, mais attendez, je suis mort à 37 ans, je vais vous raconter 170 ans. Alors Dieu lui répond, il dit, non, on a pris les heures que t'as facturées.
Ah, escroc.
Moi j'ai rien contre les avocats, hein.
Non,
c'est une blague juive.
Il y a plein de blagues avec les garagistes.
Oui, il y a tout avec les garagistes, les médecins, tout ce que tu veux. On continue. Donc on a dit que, en vérité, c'est évident qu'on ne devrait pas faire de catégorie dans les mitzvot. Il n'y a pas les mitzvot positives, les mitzvot négatives. Toutes les mitzvot sont importantes. Ah, pourquoi c'est plus compliqué de faire une teshuvah sur une mitzvah négative? C'est plus compliqué, parce que quand j'ai fait une mitzvah négative, quand j'ai fait quelque chose d'interdit, il faut beaucoup plus de cran que pour oublier de faire quelque chose de permis. Donc c'est un petit peu ce que voulais dire tout à l'heure. Voilà pourquoi faire teshuvah sur une mitzvah négative, c'est plus compliqué, il faut attendre le jour du Yom Kippour. D'accord. Ça, c'est les trois catégories. Bon. Maintenant qu'on a expliqué ces trois catégories, on va passer à la page suivante. Ah, parce que la lettre, Yiret HaTeshuvah, c'est une lettre en vérité qui est en 12 lettres. Donc on va pas faire les 12 lettres, on va faire que deux cours sur la Teshuvah, cette semaine et la semaine prochaine. Maintenant, ce qu'on va expliquer, on va passer à la page suivante, page Tzadik Aleph. Et on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est Teshuvah. Qu'est-ce que c'est faire Teshuvah? D'accord? Ve'ineh. Mitzvah HaTeshuvah Minatora. La mitzvah de la Teshuvah, c'est la première ligne. La mitzvah de la Teshuvah Minatora, c'est quoi? Iyazivat Achet Bilvat. Les gens pensent que faire la teshuvah, c'est synonyme de jeûne. Shabbat, on en a parlé un petit peu aussi, il y a des gens qui pensaient par exemple que faire teshuvah, ça veut dire changer radicalement, et c'est quelque chose qui est a priori inaccessible. La réponse, c'est que c'est pas du tout, c'est faux.
C'est abandonner.
Teshuvah, c'est que minatora, c'est quoi? C'est abandonner la faute. C'est décider de ne plus refauter. Azivat achet. Il va mener des preuves. D'abord, on explique ce que ça veut dire. Kedeita bigmara perek gimel esanedrin ou bechoshen mishpat sof siman la medalet leinen edut. La Gemara, dans le traité Sanhedrin, elle parle d'une personne qui est inapte au témoignage. C'est quoi une personne qui est inapte au témoignage? Par exemple, une personne qui a menti. Il s'est fait attraper, il a menti. Donc celui-là, quand il vient un jour témoigner au Beit Din, est-ce qu'on accepte son témoignage? Non. Il a fait teshuvah. Il dit qu'il a fait teshuvah. D'accord? Alors, la Gemara pose la question, elle dit oui, mais ça veut dire quoi faire teshuvah? Qu'est-ce qu'il doit faire pour faire teshuvah? Il doit payer de l'argent? Il doit payer une amende? Non, c'est pas ça teshuvah. C'est quoi faire teshuvah? Est-ce qu'il y a une punition? Est-ce que par exemple on va dire pendant 10 ans il n'a pas le droit d'exercer et après au bout de 10 ans c'est fini, il y a prescription? C'est quoi teshuvah?
Il doit penser sincèrement qu'il...
Réponse de la Gemara. La Gemara donne la réponse, elle dit teshuvah, ça veut dire qu'il s'engage devant le Beit Din à ne plus refauter. Azivat arrête. Parce que là c'est devant un Beit Din. Ah, oui, il a menti devant le Beit Din, donc devant le Beit Din il faut qu'il s'engage à ne plus refauter.
Mais qui te dit qu'il est sincère?
C'est vrai, tu as raison.
Ah, oui.
Tu as raison. Si le Beit Din pense que le bonhomme, c'est un récidiviste, dans ce cas-là, il faut qu'il nous donne des preuves.
Ouais.
On peut lui demander des preuves. Mais il n'y a pas besoin de payer d'amende, ou il n'y a pas besoin d'attendre une durée de prescription. Il n'y a pas de délai de prescription. Ça n'existe pas. Même dans 20 ans, tant qu'il n'a pas décidé de ne plus recommencer, ça s'appelle pas teshuvah. Donc c'est quoi teshuvah? Teshuvah, c'est décider d'abandonner la faute. Il va expliquer dans les mots. Troisième ligne. Da'inu, ça veut dire, Sheigmor belibo belef shalem, qui va décider dans son cœur. Belev Shalem avec un cœur parfait. C'est-à-dire, c'est pas juste je dis, bon, parce qu'il faut le dire avant Shana Kippour. Non. Je décide réellement, sincèrement, au fond de mon cœur, les Baal Yashuv, les Od, les Kisla. Je décide de ne plus refauter, l'Imrod, le Malchuto Yitbarer. Parce que finalement, c'est quoi une faute? C'est une révolte contre Akadosh Baruch Hu. Quand je fais une faute, qu'est-ce qui se passe? Il y a un conflit entre ma volonté et la volonté de Dieu. C'est ça en vérité. On le perçoit pas comme ça, parce que bon, je fais la faute parce que je l'ai faite, c'est tout. Mais qu'est-ce qui se passe en vérité derrière les coulisses? Ben, moi je veux faire quelque chose, et Dieu ne veut pas que je le fasse. Et donc, quand j'ai fait la faute, ça veut dire que je me suis révolté contre la royauté de Dieu. C'est ma volonté qui est emportée sur la volonté de Dieu. Donc faire teshuvah, c'est quoi? Faire teshuvah, c'est se dire au fond de soi, se dire, plus jamais, je vais vraiment faire beaucoup d'efforts pour que plus jamais, je vais me révolter contre Akadosh Baruch Hu, plus jamais je refaute. Ça veut pas dire que je vais pas refauter. Mais c'est déjà au moins une décision que j'ai envie que ça se passe comme ça. Ça veut dire qu'on peut passer maintenant Rosh Hashanah, Yom Kippour, dire toutes les prières, peut-être même comprendre le sens, et passer complètement à côté de la plaque. Si on n'a pas ce que je viens de dire ici maintenant, ça veut dire prendre même un instant,
pour
d'accord,
s'engager.
Un instant dans lequel je m'engage intérieurement, je me dis, ça y est, l'année prochaine va être meilleure, je m'engage à quitter le chemin de la faute, je m'engage de tout mon cœur à ne plus me révolter contre Dieu et à essayer de suivre le chemin d'Akadosh Baruch Hu. Si j'ai pas eu cette pensée-là, je perds mon temps. D'accord ? Mais et ça, tout est mis en œuvre.
Ça veut dire prendre des engagements sur des fautes non. que tu fais et que tu vas essayer de ne plus faire.
Je n'ai pas dit que je vais être sadique.
Non, je ne suis pas... Je
n'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit je prends la décision de tout faire, de tout faire les efforts possibles pour ne plus me révolter. D'accord ? Pour ne plus me révolter contre la Kadosh Baruch Hu. Je vais vous donner un exemple.
Mais regardez. Révolté,
je vais vous donner un exemple. Ouais. C'est comme si, par exemple, imaginez, par exemple, un mari qui a insulté sa femme. Parce qu'on a même, vous savez, dans la, pour les exemples de la Teshuvah dans les livres, on a même beaucoup les exemples avec le mari et la femme. Parce que la femme, c'est Israël. D'accord ? Imaginez, par exemple, un mari qui a insulté sa femme. D'accord ? Chas v'shalom. Et il s'excuse. D'accord ? Non, mais écoute, il s'excuse. Et qu'est-ce qu'il lui dit ? Il lui dit, je te promets que je te répéterai plus cette insulte.
Mais les autres,
Ils vont en sortir une autre.
Qu'est-ce qu'elle va lui répondre, sa femme ? Elle va lui dire, mais c'est pas cette insulte qui me dérange, c'est le fait que tu m'insultes. C'est la même chose. Quelqu'un, il a fait une avéra. Il a fait plusieurs avérantes. Et il dit, Dieu, je te promets, cette avéra, je la recommencerai plus. On dit, mais remarque, ça marche pas comme ça. C'est pas ça, l'engagement. L'engagement, c'est que tu dois prendre un engagement sincère, de dire, je ferai des efforts pour ne plus t'insulter du tout. J'ai pas dit que je vais réussir, mais au moins, je vais essayer de faire des efforts pour aller dans cette direction. Et le fait même de prendre cette décision.
Mais c'est vague.
D'accord ? C'est pas vague du tout. Dans la tête, je vais expliquer. Dans la tête, il y a un moment dans lequel il y a un déclic. Maintenant, après, les résultats de ce déclic, ça peut durer des dizaines d'années. Il y a un déclic dans lequel tu te dis, il faut que je change. Tu vois ce que je veux dire ? Tu te dis, ça suffit, il faut que je change, ça, il faut que j'arrête ça. Maintenant, c'est pas dit que tu vas réussir tout de suite. Ça peut prendre des années des fois. Peut-être même qu'on réussira pas. C'est pas grave. Pour Akadosh Baruch Hu, t'es déjà appelé un Baal Teshuvah. Pourquoi t'appelles un Baal Teshuvah? Parce que t'as commencé à prendre la direction du retour. Donc en vérité, Teshuvah, c'est quand j'ai commencé à prendre la direction du retour. C'est ça, Teshuvah.
C'est juste prendre la direction, c'est genre, il n'y a pas forcément derrière
des... Prendre la direction et prendre des je veux dire, prendre des décisions concrètes. Mais que ce soit quelque chose de sincère. Ouais, pas juste je dis parce que je dois le dire. Que quand je dis je vais le faire, je prends des décisions concrètes et j'essaye de me mettre en direction. Maintenant, c'est évident qu'une personne qui fait pas les mitzvot ne peut pas commencer d'un coup à faire 613 mitzvot, il va craquer. Ça marchera pas. Donc c'est quoi la décision qu'il va prendre? C'est qu'il va prendre la décision d'aller progressivement. D'accord? Je sais pas quel exemple on peut donner. C'est comme par exemple quelqu'un qui veut se mettre au régime. Il mange beaucoup, il décide de se mettre au régime. Alors t'as des gens qui vont faire un régime radical, mais c'est dangereux.
Oui, bien sûr.
C'est dangereux parce que le corps a besoin de s'adapter. Alors c'est quoi le régime qu'il a fait? Ah bah oui. Donc comment c'est quoi un vrai régime, d'accord? Progressivement, d'accord. Pareil, celui qui veut s'arrêter de fumer ou s'arrêter de je sais pas quoi, il faut aller progressivement. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un moment dans lequel il y a eu un déclic dans sa tête. Il a dit il faut que je change. Ça veut pas dire qu'il va changer maintenant, mais ça veut dire qu'il a compris dans sa tête qu'il doit changer. Ça, en vérité, on explique. L'Admor HaZaken explique que ça c'est l'essentiel de la Teshuvah. Ça, c'est déjà la Teshuvah. Le reste, c'est le résultat de la Teshuvah. D'accord ?
Il faut
qu'il y ait
un résultat.
Non ? Parce que chaque année, on promet beaucoup de choses.
C'est
je risque de vous choquer. Il y a plusieurs qui n'étaient pas là quand on avait... Parce que cette lettre, Igaret HaTeshuvah, on l'a étudiée il y a 2 ans et demi au cours de Tania. Et plusieurs qui n'étaient pas là. Alors, j'avais expliqué il y a 2 ans et demi qu'on peut avoir... Vous savez, la fameuse scène du juif de Kippour. D'accord? Ça veut dire que quelques heures ou quelques minutes avant la fin de Kippour, t'as un juif qui débarque.
Quelques secondes.
Hein. Quand? T'as même pas le temps. Bon, honnêtement, c'est des gens que t'as même pas le temps de faire connaissance avec eux parce que tout le monde est occupé avec la Neila. T'as pas le temps de te retourner, ils sont déjà partis. Et tu les vois une fois par an. Une fois par an, tu les vois. D'accord? C'est très bien. Eh ben, ce que je peux vous dire, c'est que des fois, ça va être un peu dur ce que je vais dire, c'est que des fois, ces gens-là, ils ont peut-être mieux compris que ceux qui ont prié, ça fait 40 jours. Pourquoi? J'ai pas dit que c'est bien ce qu'ils font. Mais j'ai dit que des fois on peut faire les slichot, on peut faire des tas de choses, on peut écouter le shofar, on peut faire toutes les prières. Mais passer à côté de ça, de ce que je viens de dire ici maintenant, que teshuva, ça veut dire, j'ai un déclic dans ma tête qui dit, ça y est, il faut que je change. Et je l'ai pas fait parce que bon, j'étais occupé avec les prières, la liturgie, les chants, etc. Alors que pour cette personne-là, pour ces personnes-là qui viennent, très souvent,
pour ceux qui viennent une minute,
pour ces gens-là, je termine le raisonnement. Pour ceux qui viennent comme ça quelques minutes avant la fin de Kippour, et ben, très souvent, ils ont un élan de teshuvah qui leur dit, il faut que je change. Maintenant, des fois, leur yetzara, il est trop fort parce qu'ils sont mariés avec des goyotes, ils vivent avec des goïms, et ils sont des catastrophes. Mais c'est très possible que ce bonhomme-là, pendant les quelques minutes qu'il était là, il a eu sa neshama qui lui a dit, il faut que tu changes. Et à ce moment-là, il est devenu tzaddik. Après, il va redevenir racha, malheureusement.
Ah, c'est facile, hein.
C'est pas facile. Parce qu'après, Dieu, il fait la moyenne.
Non, mais, David, si c'est sincère, vraiment, si le mec est sincère.
Il fait le bilan. Dieu, il fait la moyenne après.
Si le mec est vraiment sincère, il est pas en face. Ça, apparemment.
Sur le coup.
C'est quoi?
Oui, ça va, après, c'est vénère.
Sur le coup, il sera sincère, mais après.
Voilà. Donc, sur le coup, il a fait teshuva. C'est parce que c'est quoi faire teshuva? C'est, il a décidé, il a dit, il faut que je change. Alors, c'est une teshuva. Mais après, il est rentré chez lui, c'était plus fort que lui. La teshuva, alors, écoutez bien, Rabotai. La teshuva n'a pas besoin de durer des heures. La teshuva peut durer une fraction de seconde. En une fraction de seconde, écoutez bien, oui. Ça change pas. Alors après, je redeviens racha.
Ça, c'est la chokhma.
Oui, alors.
D'accord. Après, Dieu, à la fin de ma vie, fera la moyenne. Mais ça change pas qu'à cet instant-là, quand j'ai fait teshuva, je suis devenu tzaddik. Dès l'instant où j'ai décidé sincèrement, je vais changer, je suis tzaddik.
Tu veux changer, Marcel? C'est-à-dire que ta personne, par exemple, elle est avec des goyotes, etc. Donc c'est compliqué. Donc c'est-à-dire, elle peut avoir l'intention de changer, mais ça n'empêche pas qu'à côté, elle peut pas.
Que techniquement, il n'arrivera pas.
Ce que je voulais dire, c'est est-ce que d'avoir cette intention, c'est déjà su. C'est-à-dire, est-ce qu'on considère que ça, c'est la
chose? Non,
entièrement.
Alors attention, doucement. Quand on parle d'intention, c'est pas juste qu'il a l'intention que ça le dérange la situation.
Non, c'est vraiment.
C'est qu'il se dit, il faut que je change, d'accord? Et qui se met à réfléchir comment changer. Mais après, techniquement, c'est trop compliqué, il ne fera pas.
Bon, justement, est-ce que sur ça, c'est considéré comme teshuva?
Ça s'appelle teshuva à 100%.
Ok. Est-ce que ça peut amener justement les occasions de
bien sûr, naturellement.
Donc ça vient que de là.
On ne fait jamais teshuva en un coup. C'est plusieurs fois où on s'est dit, il faut que je change, et après, progressivement, on change.
C'est ce moment de juste Kippour qui est propice.
Non, on va dire qu'il y a des moments. C'est pas qu'il est plus propice, c'est qu'il.
Pour des gens qui sont effectivement.
Si tu veux, Kippour, même pour nous, Kippour c'est le bulldozer. C'est là où la Neshama est à plein régime.
Pardon,
donc même ceux qui toute l'année sont complètement out, d'accord. Quand la Neshama est à plein régime, et ben forcément ça fait quelque chose même à eux. Tu vois ce que je veux dire?
Mais ceux qui sont complètement out, la seule occasion qu'ils aient dans l'année de pouvoir faire tes choix, c'est justement de venir à Kippour. Le reste de l'année, ils n'ont pas.
Ils n'ont même pas. Oui, bien sûr, ils n'y pensent même pas. Ouais. Et bien à cet instant-là, s'il a eu une kavana de teshuva.
C'est plus propice à ceux qui sont très éloignés, mais pour quelqu'un qui n'est pas si éloigné que ça, il peut faire teshuva tous les jours.
Tu sais, moi j'ai déjà surpris plusieurs fois des gens comme ça, des juifs de Kippour qui viennent, tu les vois en train de pleurer. Truc de fou. Tu les vois jamais.
Ouais,
jamais, tu les vois en train de pleurer. Pleurer comme des bébés.
C'est-à-dire
qu'il y a un truc, à ce moment-là, il y a un truc qui se passe, ça les secoue. Et à ce moment-là, tu sais, s'il pleure, c'est-à-dire qu'il veut changer, c'est-à-dire qu'il a des remords, il regrette ce qu'il a fait.
C'est parce qu'il a faim.
Mais malheureusement, après, il n'arrive pas. Non, mais sérieusement. Non. D'accord? La teshuva, d'accord? La teshuva, c'est pas quelque chose qui doit durer une vie entière. La teshuva peut être une décision d'une fraction de seconde. En une fraction de seconde, on peut passer du statut de rachat absolu à tzaddik absolu. Et pareil de l'autre côté? Une personne qui est tzaddik absolue, et en un instant, il se met à faire avodazara dans sa pensée. Bien sûr, ça peut exister.
Mais je pense que ça doit être beaucoup plus difficile pour eux.
D'accord?
Oui.
D'accord, mais il se peut par un bas se dire, ah, elle est bien cette idole. Dans sa tête, il se prosterne. Il vient de faire avodazara. Il est passé racha, ça y est. Parce qu'il s'est révolté contre Dieu.
Donc c'est ça qu'il va rester racha toute sa vie, le mec.
Quoi?
Il va rester.
Non, j'ai pas dit ça. Dans la vie, c'est un yo-yo. Après, Dieu, à la fin, il fait la moyenne. Comme dans la bourse. Tu vois?
Ah, c'est passé d'un an.
Non, Dieu, il prend tout.
Ah, oui, c'est bon.
Ok? Alors, je continue. Il faut mieux ne pas compter dessus. Non, c'est plus simple.
En tout cas, on paye.
Je lisais un magazine, je crois que c'était Challenge, je sais pas quoi, qui disait, selon la tranche d'âge, si vous avez de 30 à 35 ans, de 35 à 40 ans, 40 à 45, qu'est-ce que vous devez espérer comme retraite? Alors bon, ceux qui avaient 55, 60 ans, d'accord, et plus l'âge il descendait, il y avait une courbe, et plus tu restais.
Rien d'où, hein. Non, merci. Tu veux une petite.
C'est bon? On y va.
Ça joue pas ça.
Oui, le whisky.
Donc.
Ça s'attend pas à ça.
Oui. Comment vous traduisez Teshuva? Teshuva, comment vous traduisez?
Retour.
Abandon.
Retour.
Teshuvah, moi je
buvez
ceci.
Alors, les gens traduisent Teshuvah par repentance. C'est faux.
Non, voilà, moi j'aime pas ce mot.
D'accord. C'est un terme chrétien, ça, repentance. Le terme Teshuvah, Teshuvah en hébreu, il y a le mot lashuv. Lashuv, lashuv chazara, ça veut dire retourner, revenir. Pardon. Ça veut dire que c'est quoi Teshuvah? C'est le moment dans lequel un juif décide de retourner. Ça veut dire qu'il prend le chemin de retour. Ça ne veut pas dire qu'il va rester, qu'il va aller jusqu'au bout. Mais le fait même d'avoir pris le chemin de retour, c'est déjà appelé une Teshuvah. Et il a même plusieurs preuves de ça. D'accord? Plusieurs preuves de ça. Par exemple, dans la paracha Nitzavim qu'on a lu la semaine dernière. D'accord? Là-bas, c'est écrit clairement, c'est dans la paracha, que Moshe Rabbeinu prédit le fait qu'on va aller en exil, et qu'en exil on va tomber, etc. Et il prédit là-bas que, Veshavta, on fera Teshuvah. Et là-bas, qu'est-ce que disent les commentaires? C'est quoi faire Teshuvah? C'est un instant dans lequel le Ham Israël va prendre sur la tête. Il ira en exil, etc. et tout. Et à un moment, il y aura un déclic qui vont se dire, bah, attends, qu'est-ce qu'on fait là? Ça veut pas dire qu'ils vont retourner instantanément en Israël. Il y a un déclic qui va se dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'on fait là? Pourquoi on est là?
C'est le début d'un processus.
C'est déjà le début d'un processus. Parce qu'on a compris qu'il y a un problème. Le fait de comprendre qu'il y a un problème.
On n'a pas compris.
Si? Justement, après, il y a un processus.
Tiens, tu veux comprendre?
Le fait même de comprendre qu'il y a un problème. C'est déjà la partie la plus importante. D'accord? On dit, il y a un proverbe qui dit en hébreu, qui dit, savoir la maladie.
C'est déjà guérir.
Savoir la maladie, c'est la moitié de la guérison.
C'est vrai.
Parce qu'une personne qui n'accepte pas qu'il est malade, il guérira jamais. Une personne qui accepte qu'il est malade, et qu'il accepte qu'il doit se guérir, même si techniquement après, il aura peut-être du mal à se faire guérir, le fait même qu'il a accepté qu'il est malade, c'est déjà la moitié de la guérison. C'est ça, la Teshuvah. Teshuvah, c'est accepter que je suis malade et décider d'aller chez le médecin. Maintenant, est-ce que je vais réussir à accepter tout ce que le médecin me dit? Je sais pas. Peut-être oui, peut-être non. Au début, je vais écouter 10% de ce qu'il me dit. L'année d'après, je vais écouter 20%. L'année d'après, 30%. Donc, en vérité, la teshuvah, c'est la décision d'un instant et le travail d'une vie. Donc, avec ça, je réponds à ta question. Tu me dis, oui, mais chaque année, on refait teshuvah. Oui, mais quand tu compares chaque année, une année par rapport à l'autre, on voit qu'il y a un avancement. Ça peut être un avancement qui, on peut avancer à pas de fourmi. Mais il y a un avancement.
C'est pas chaque année, c'est tous les jours, on est trois fois par jour.
Mais principalement, il y a des périodes de teshuvah, comme là maintenant, Rosh Hashanah, Yom Kippour, etc. Mais il y a un avancement par rapport à avant. Peut-être pas beaucoup, mais on a progressé dans son judaïsme, on a progressé dans sa Torah. C'est-à-dire qu'on voit que quand on est confronté au même problème, on voit qu'on réagit un peu mieux. Donc ça veut dire qu'on a avancé. Ça veut pas dire que ce que j'ai fait l'année dernière, c'était du temps perdu. Non. Ça veut dire que la teshuvah, c'est la décision d'un instant et la progression d'une vie entière.
Mais c'est aussi l'âge.
Non. C'est pas du tout, non?
L'âge joue.
L'âge, c'est l'expérience.
Bah, oui, c'est ça.
Et donc, l'expérience, c'est toutes les galères qu'on a prises qui ont fait qu'avec le temps, on a pris des décisions et qu'on a décidé de s'améliorer.
Maintenant, on apprend de ses
échecs. Exactement. Alors, vélo, maintenant, on va passer au point qui est un peu avant le milieu de la page. Vélo, kedahat. À la fin, la ligne qui commence par kedahat. Pardon, la ligne qui termine par kedahat. Vélo, kedahat, ahamon, shachua, hi, ata'anit. Le peuple pense, ça, c'est les termes de l'Admor Zaken, que Teshuvah est synonyme de jeûne. Les gens, ils pensent que c'est quoi Teshuvah? C'est une personne qui va faire des jeûnes, qui va jeûner, comme on voyait beaucoup dans les communautés avant, qu'il y avait des gens qui jeûnaient. Et les gens pensent que Teshuvah, c'est les jeûnes. Il dit pas du tout. Il dit, va filou misha avar.
C'était pas une forme de pardon, le jeûne?
Eh ben, justement, ce qu'on va expliquer. C'est une bonne question. C'est qu'en vérité, le jeûne n'est jamais une forme de pardon. Le jeûne, comme on va expliquer plus tard, c'est seulement pour parfaire la Teshuvah. Pour la rendre plus parfaite. Ça va être l'équivalent du korban, du sacrifice qu'on offrait à l'époque. Ça va être l'équivalent de pas mal de choses qu'on va expliquer ici. Mais c'est un bonus, c'est une amélioration de la teshuvah. C'est jamais la teshuvah. C'est-à-dire, des fois, on se concentre sur ce qu'il y a autour. Par exemple, donner la tzedaka, faire beaucoup de choses, etc. Ça. Et on passe à côté de l'essentiel. D'accord? C'est comme, par exemple, celui qui va dire, Rosh Hashanah, c'est le shofar. Faux! Rosh Hashanah, c'est pas le shofar. Rosh Hashanah, c'est le jour du jugement. Donc, Dieu attend de nous qu'on fasse teshuvah. Alors, Dieu nous met en condition. Une des mises en condition, c'est le chauffard. Parce que le chauffard, on dit que quand le chauffard il sonne, ça éveille la neshama, et la neshama, c'est qu'à ce moment-là, elle a un cri qui dit vers un kadosh baruch hu. Le Baal Shem Tov avait dit qu'il y a un cri de la neshama à ce moment-là qui dit vers un kadosh baruch hu, qui dit papa, papa, sauve-moi. Ça, il dit Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il donne l'exemple suivant. Il dit, c'est comme une fois, il y avait un roi qui a voulu envoyer son fils, donc qui était le prince, qui était un peu trop gâté. Donc il a voulu le former à devenir roi plus tard. Alors le roi, il l'a envoyé dans une contrée très très lointaine du palais. Il dit comme ça, là-bas, il va se faire les dents, comme on dit. Il va comprendre ce que c'est la vraie vie. Et là-bas, il va comprendre. Alors, le prince, il arrive là-bas. Et bon, avec le temps, au début, il se la joue, etc. Après, avec le temps, il est devenu comme tout le monde. il parlait comme tout le monde, il mangeait comme tout le monde, et il a oublié qu'il était un prince. Avec le temps, il était jeune, il a oublié qu'il était prince, il y pensait plus. Et il raconte là-bas, le Baal Shem Tov, il dit qu'une fois, on annonce au palais, enfin pardon, dans cette ville, on annonce que le roi vient en visite dans cette ville. Et là, tout d'un coup, ça le revient en esprit. Qui je suis, d'où je viens, ce que j'aurais dû être, ce que je suis maintenant. Mais le problème, c'est que il est tellement loin qu'il parle même plus la langue de son père. C'est pas qu'il parle plus la langue natale, mais ça veut dire que ils ont plus le même langage, ils parlent plus de la même manière. Alors, dit le Baal Shem Tov, à ce moment-là, le fils, il sait même pas comment s'exprimer à son père, il sait pas, il a oublié c'est quoi les méthodes de parler du royaume. Et il va faire une chose. C'est dès qu'il va voir son père arriver, il va se jeter dans les bras de son père, il va dire, papa, papa, sauve-moi. Et ça vaut tout l'or du monde. Et ben, dit le Baal Shem Tov, c'est la même chose. À Kadosh Baruch Hu, il nous a envoyé notre Neshama. Il nous a envoyé loin, dans ce monde-ci. Il nous a envoyé pour qu'on se forme. Pour qu'on soit ses ambassadeurs. Maintenant, le problème, c'est que nous, on a vécu dans ce monde, et au lieu d'être les ambassadeurs de Dieu, malheureusement, très souvent, on est devenu, on a commencé à vivre comme le monde. Donc, du coup, même quand on veut parler à Dieu, on sait même plus comment lui parler. Et on nous annonce, on dit, ça y est, Rosh Hashanah qui porte, Dieu va arriver. Mais le problème, c'est que, on sait même pas comment lui parler à Dieu. Alors, dit le Baal Shem Tov, quand on va sonner le shofar, à ce moment-là, la Neshama, c'est un son simple, qui n'a même pas de syllabe. C'est un son simple qui part vers un Kadosh Baruch Hu qui dit, papa, papa, sauve-moi. Et ça, ce son, dit le Baal Shem Tov, il vaut tout l'or du monde. C'est ça, le shofar. Ça veut dire que le shofar, c'est une mise en condition, pour que le juif parle à Kadosh Baruch Hu et pour qu'il lui dise « Je veux changer ». Le fait même de vouloir changer, c'est déjà extraordinaire. Donc encore une fois, la teshuvah, c'est pas les jeûnes. La teshuvah, c'est pas la tzedaka. La teshuvah, c'est pas les sacrifices. La teshuvah, c'est pas tout ça. La teshuvah, c'est une décision d'un instant. Il y a les jeûnes. Les jeûnes, on vous expliquera après. C'est pour parfaire la teshuvah. Mais la teshuvah, c'est pas les jeûnes. Ah, maintenant, tu vas me dire « Oui, mais on a vu qu'il y a certaines personnes qu'à Kadosh Baruch Hu leur envoie des souffrances. » D'accord ? Il y a des gens que Kadosh Baruch Hu envoie des souffrances. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit, oui, des fois, les souffrances, ils viennent pour le pardonner des Averot qu'il a fait. Donc ça, on dit. On dit bien Kapara. Kapara, ça veut dire, hein, il prend sur la tête, c'est tout ce qu'il reste à dire, mais tu dis Kapara, c'est quoi Kapara? Vous connaissez ce mot Kapara? Ça veut dire, bon, c'est un sacrifice. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que... C'est-à-dire, quelle est la notion de sacrifice? D'accord? C'est-à-dire, quelle est la notion de sacrifice? Alors, il dit pas du tout. Il nous donne un scoop ici, il dit pas du tout. Il dit en vérité, vous savez quand est-ce que Kadosh Baruch Hu il t'envoie un sacrifice comme ça? C'est quand Kadosh Baruch Hu a déjà accepté ta teshuvah, et comme il a envie de t'aider à parfaire ta teshuvah, alors il va t'envoyer des épreuves pour te permettre de mieux faire ta teshuvah. Mais le fait qu'il
écoute une sale épreuve dans sa vie et que lui considère que c'est une kapara,
ça veut dire que Dieu a accepté cette teshuvah et que Dieu l'aide à compléter cette teshuvah. Parce que le rachat il prendra pas des épreuves sur la tête parce qu'il a pas fait teshuvah. C'est une chance en vérité. Recevoir des épreuves, c'est une chance. Seulement, on prie tous les jours, on demande à Kadosh Baruch Hu, on demande à Kadosh Baruch Hu de pas passer par des épreuves parce qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr d'avoir la capacité de tenir dans l'épreuve.
On n'a pas le même langage. Ou bien on comprend plus le.
Il te connaît pas, il sait ce que tu peux.
Mais encore une fois, il pourra l'expliquer ici pour te dire, ne crois pas que les épreuves c'est la teshuvah. Non. Au contraire, les épreuves, c'est une personne qu'Akadosh Baruch Hu a accepté cette teshuvah et qu'Akadosh Baruch Hu estime qu'il a l'air insolide pour recevoir, Dieu préserve, une punition, chas v'shalom, à aucun de nous, d'accord? Alors Akadosh Baruch Hu va lui envoyer une épreuve pour l'aider à mieux se rapprocher de lui, pour aider à parfaire cette teshuvah. Mais ça ne veut pas dire que l'épreuve, c'est la teshuvah.
Si lui, il n'a pas compris.
C'est quoi s'il n'a pas compris?
Imagine-toi un monsieur ou une dame, elle voulait faire teshuvah, bon bref, peu importe, elle a reçu cette épreuve, cette capara-là,
ouais.
Et elle n'a pas compris que c'était une
capara. Bon, elle n'a pas compris. En général, quand quelqu'un lui envoie une épreuve, c'est qu'il te donne les moyens de comprendre.
Ah, voilà, d'accord.
C'est comme un appel de phare.
Okay, imagine.
Après, tu peux ignorer. Si on te fait un appel de phare, c'est qu'il y a un radar quelque part. Et... Ah. Un problème.
C'est vrai.
Quand t'as Kadosh Baruch Hu, il y a un appel de phare. C'est-à-dire, quand des fois, par exemple, il y a des fois des jours dans lesquels on voit vraiment la présence de Dieu. On sent qu'il y a un truc, c'est des trucs pas normaux qui arrivent. Dieu, il te montre qu'il y a vraiment, t'as des trucs devant toi qui arrivent, des choses extraordinaires. C'est des appels de phare d'un Kadosh Baruch Hu.
Deux Ferrari d'un coup.
Voilà. Ah, mais c'est vrai. Des fois, t'as des choses qui arrivent, qui ne peuvent pas être le fruit du hasard. Et tu dis, mais c'est pas possible, comment c'est possible? D'accord? Tu prends plein la figure. C'est les appels de phare d'un Kadosh Baruch Hu pour te donner un coup de pouce. Après, c'est toi décider. Tu veux prendre compte. Prends compte, tu vas prendre compte, ne prends pas compte. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que la teshuvah, c'est pas les jeûnes. Et avec ça, il explique, voilà pourquoi Maïmonide, quand il développe la mitzvah de la teshuvah, vous savez, Maïmonide, il a développé beaucoup sur toutes les mitzvot, il a écrit 4 chapitres sur la mitzvah de la teshuvah, il ne parle pas du tout des jeûnes. Dans tous les quatre chapitres, il ne mentionne pas une seule fois le terme jeûne.
On croit que c'est le jeûne qui va pas. Faire pardonner.
D'accord. Et là, encore une fois, vous voyez, parce que ouais. Les gens, d'où c'est venu ça dans la tête des gens? Parce que les gens, ils s'imaginent, quand on fait teshuva en général, le jour de Kippour, et Kippour, on jeûne. Donc, teshuva est égal à jeûne. Il y a un amalgame. Alors qu'en vérité, pas du tout, encore une fois. Quand tu demandes aux gens c'est quoi Kippour, ils disent Kippour, c'est le jeûne. Non, c'est pas ça. Kippour, c'est la teshuva. Seulement, pour mettre une personne en condition, pour l'aider à faire teshuva, d'abord, ça fait 39 jours qu'on cuisine, d'accord? Ça fait 39 jours qu'on te cuisine, d'accord? C'est-à-dire qu'on te fait les stichot, les chauffards, ta, d'accord? Et ensuite, quand t'arrives Kippour, on te fait jeûner. Pourquoi on te fait jeûner? Parce que c'est quoi le message que tu envoies encore quand tu le fais jeûner? D'accord? Écoutez, c'est très simple. C'est quoi le message que j'envoie encore quand je jeûne? Le message que j'envoie au corps quand je jeûne, c'est, je dis, normalement, en général, dans la vie, quand il y a un conflit entre le spirituel et le matériel, qui est-ce qui prend le dessus? C'est le matériel. J'ai faim, je mange. J'ai soif, je bois. Quand arrive le jour de Kippour, je dis, j'ai faim et je mange pas.
On dit pas ça, on veut pas dire
j'ai soif et je bois pas. Pourquoi? Parce que c'est Kippour. Donc ça veut dire que là, à ce moment-là, le spirituel a pris le dessus sur le matériel. Maintenant, au début de Kippour, c'est facile parce que je viens de manger. Mais vous remarquerez que plus on avance dans Kippour, et plus on se sent dans Kippour. Pourquoi? Parce que plus on avance dans Kippour, et plus le spirituel prend le dessus sur le matériel. Comme on n'a pas mangé, donc du coup, on a envoyé un message à notre corps. On est en train de lui dire, c'est pas parce que tu veux ton matériel que tu l'auras. Et donc du coup, progressivement, ça permet à la neshama de mieux s'exprimer. Et voilà pourquoi on jeûne. C'est la raison pour laquelle on jeûne. C'est la raison pour laquelle on est dans toutes ces mortifications pour essayer de pousser les gens à être au maximum spirituels. Mais le but de tout ça, c'est quoi? C'est qu'à un moment dans toute cette journée dans laquelle on est le plus spirituel possible, il y a un déclic qui se passe dans ma tête et je me dis, mince, je vais changer. C'est une mise en condition. Si j'ai pas pris cette décision pendant Kippour, je suis passé à côté de Kippour. C'est-à-dire tout le reste, le fait de jeûner, les slichot, tout ce qu'il y a, c'est seulement des mises en condition. Mais l'essentiel de Kippour, c'est quoi? C'est la décision que je vais prendre de dire, je veux changer, je vais changer. Ça, c'est Kippour. Donc, mais encore une fois, dans la tête des gens, les gens qui ne savent pas ça, comme pour eux, ils savent que Kippour en jeûne, donc ils disent, oui, la teshuva, c'est le jeûne.
Avant, c'était avant.
Mais ça, c'était avant.
Ça, c'était avant. D'accord?
La crise.
Est-ce que vous me suivez? Je répète. C'est bon? D'accord? Les gens font l'amalgame entre teshuva et jeûne. C'est une erreur. Le jeûne de Kippour, c'est seulement une mise en condition. C'est la raison pour... Maïmonide explique que c'est la raison pour tous les jeûnes.
La reine Esther n'a pas dit qu'il fallait jeûner 3 jours pour...
Alors pareil, pourquoi elle demande de jeûner? Parce qu'elle demande de supplier, d'implorer à Kadosh Baruch Hu.
Oui,
donc pour implorer à Kadosh Baruch Hu, il faut que ma neshama s'adresse à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi le problème? C'est un problème spirituel. D'accord? Donc, il faut que ma neshama s'adresse à Kadosh Baruch Hu. Oui, mais pour que ma neshama s'adresse... J'ai compris. Mais pour que ma neshama s'adresse à Kadosh Baruch Hu, j'ai besoin de la mettre en condition. À l'époque, ils avaient jeûné 3 jours d'affilée, hein, pas comme les Avdil, les Arabes. 3 jours d'affilée. Donc, imagine ce que c'est de jeûner 3 jours d'affilée.
Non-stop.
D'accord? Non-stop.
Pas 3 nuits.
Tiens pas.
3 jours, 3 jours, 3 nuits. Shlosha yamim, laila vayom. 72 heures. Ils ont jeûné 72 heures. C'est le maximum qu'un homme peut jeûner. Plus que ça, on peut pas jeûner. Sans manger, sans boire, c'est pas possible. La Gemara dit qu'une personne qui dit 3 jours, c'est le maximum. Sans manger, sans boire. On dit qu'au-delà de ça, sans boire, le corps, il déshydrate, ça devient dangereux. 3 jours, on peut tenir. Mais ça, il ne faut pas qu'il fasse trop chaud dehors, etc. Non, là, je parle sans manger, sans boire. Rien. 3 jours, c'est le maximum que le corps peut tenir. Maximum. Pour boire, manger, on peut tenir plus. Mais boire, 3 jours. Shlosha yamim. Plus que ça, on ne peut pas tenir. Donc, pourquoi la reine Esther leur a demandé de jeûner? Pour que les Bnei Israël se mettent en condition, pour que leur neshama prenne le dessus, et automatiquement, ils vont faire une tefila sincère. Encore une fois, le but c'était quoi? Son but c'était pas juste qu'il jeûne. Le jeûne en soi n'est pas un but. Voilà ce qu'il veut dire ici. Pourquoi le jeûne en soi n'est pas un but? Parce que Akadosh Baruch Hu, si Akadosh Baruch Hu nous a créé avec un corps, d'accord? C'est que ce corps-là, on doit l'entretenir et ce corps-là doit être en bonne santé. On n'a pas le droit de faire souffrir le corps. Vous savez que c'est une avéra de la Torah de faire souffrir son corps? On n'a pas le droit. J'ai pas le droit de faire souffrir mon corps. J'ai pas le droit de décider de sauter un repas intentionnellement. Si j'ai sauté, j'ai sauté. Mais j'ai pas le droit de dire je mortifie mon corps. Ça assourd. J'ai pas le droit de faire mortifier mon corps parce que mon corps ne m'appartient pas. Il appartient à Kadosh Baruch Hu.
Mais si on fait du sport.
Mais laissant, justement.
Non, c'est différent. C'est pour un bénéfice. C'est un
entretien, ça. C'est pas une souffrance. Donc,
s'il y a une mitzvah, c'est une obligation d'entretenir son corps. D'accord? Je suis pas en train de rentrer dans la culture grecque. Après, ça dépend. Il y a sport et il y a sport. Il y a la musculation et il y a sport pour le bien-être. Moi, c'est pas la même chose.
Mais ça change quoi, la musculation ?
Bah, en général, dans le monde orthodoxe, on n'aime pas trop le sport. En général, dans le monde orthodoxe, on n'aime pas trop le sport. En tout cas, les sports où il y a un aspect, comment on appelle ça ? Embellissement, esthétique. C'est bien la culture grecque, ça.
Oui, et les
Jeux Olympiques, c'est ça. Merci. La culture grecque disait qu'il fallait avoir un beau corps.
Adonis. C'est Adonis.
On a le droit d'avoir un beau corps. Hein.
Quoi ? Il faut avoir un corps en bonne santé, ça c'est plus important. Merci. Ok ? Donc je reprends. Chez nous, le jeûne n'est pas un but en soi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'à la limite, si on avait pu obtenir le même résultat, à savoir l'expression ultime de la neshama, sans passer par le jeûne qui affaiblit le corps, et donc qui fait taire un peu le matériel pour que le spirituel s'éveille, si on avait un moyen de le faire sans le jeûne, on l'aurait fait. Seulement, malheureusement, on n'a pas le choix. C'est pour ça que Kippour, on met les privations à max. Interdiction de relation, interdiction de se laver les mains, on interdit un maximum de choses pour éradiquer le confort un maximum, pour que la personne, à un moment, elle se dise, attends, on a enlevé tout ça, le spirituel va se réveiller. Mais si on avait un moyen d'éveiller la neshama sans ça, on l'aurait fait. Le jeûne en soi n'est pas un but. Donc la teshuva n'est pas le jeûne.
On aurait pu faire Kippour dans notre circonstance.
Exactement.
Sans jeûner.
Exactement. Quand Machiav viendra,
mais là, on parle d'une
le jour de Kippour, on ne jeûnera pas. Ça sera une fête. Il y aura Kippour, il y aura Tchabéa, il y aura tout. Il n'y aura pas de jeûne, il n'y a pas besoin de jeûner. J'ai pas besoin d'affaiblir mon corps. Je peux garder mon corps et servir à Kadosh Baruch Hu avec. Les quoi ?
Il y a combien de
jeûnes dans la Torah ? 5 Minatora, il y a un seul. C'est le jour de Kippour. Après les prophètes ont rajouté quelques jeûnes, comme le jeûne de Tisha B'Av, le jeûne de Gedalia, le jeûne de Purim, c'est les prophètes qui ont rajouté ces jeûnes-là. Le jeûne du dit Tevet.
C'est quoi le
Gedalia, ça se prépare à qui c'est
le but du jeûne du Tisha B'Av, c'est de se rappeler de la destruction du Beth Amikdash et d'implorer à Kadosh Baruch Hu de la reconstruction du troisième Beth Amikdash. Bien sûr, le jeûne te met en condition. Je comprends le fait que tu manges pas, le fait que tu es assis par terre. Imagine-toi si on te dit tu viens à la synagogue, d'accord ? Après avoir mangé un bon steak, t'as le ventre bien plein, tu dis bon maintenant tu penses au Beth Amikdash qui est détruit. Tu dis bon écoute, laisse-moi tranquille avec ton Beth Amikdash. Là, ça fait déjà 9 jours qu'on t'a dit pas de viande, on te fait asseoir par terre, etc. Psychologiquement, ça agit, tu te mets à réfléchir. Donc quelque part, c'est des mises en condition que les Chachamim ont mis pour nous aider. Pour nous aider à se consacrer au spirituel. Mais Béhémet, si on avait la possibilité, comme les tzadikim, de se consacrer au spirituel sans ça, eh ben, Dieu n'aurait pas imposé le jeûne. Le jeûne en soi n'est pas un but. D'accord ?
Non, je crois qu'on en a besoin encore. On a besoin du jeûne.
Il est pas
ma chère, c'est pas encore. Hein ? Non, mais tu manges deux fois plus avant, deux fois plus après, hein, c'est tout.
C'est ce qu'on fait.
Avant, oui, mais après.
Je sais pas qu'on a faim quand même.
Avant, tu peux manger
avec un café.
Tu sais qu'en vérité, ça, on a la mitzvah avant, on a la mitzvah la veille de Kippour de manger 6 repas. C'est-à-dire l'équivalent de 2 jours de repas. Et en 6 fois, même si c'est possible. Mais en vérité, quand on mange beaucoup, ça donne faim beaucoup plus rapidement.
Bien sûr.
Parce que l'estomac, c'est. Bien sûr. Normalement, une bonne technique.
Moins tu manges, mieux c'est.
Bien sûr, avant le jeûne, moins tu manges, mieux c'est.
Moins tu manges, mieux c'est. Mais la mitzvah, c'est de manger beaucoup.
Mais t'es obligé de manger beaucoup.
Voilà, c'est ça le truc. C'est ça
la mitzvah. Ah,
la
mitzvah, c'est manger beaucoup.
T'es obligé de t'éclater la panse avant le jeûne.
Non, il y a une technique qui est c'est super, c'est de manger des pâtes. Tu manges des pâtes.
Oui, alors. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est avec les pâtes ?
C'est succulent.
Tu tiens sans aucun problème.
Et tu t'éclates la panse.
Non. Non. Non, moi je mange un plat de pâtes et puis ça suffit. Mais je mange pas
plus. Attends, plus tu manges et plus t'as faim.
Mais je mange plus tu élargis l'estomac. Donc après, quand l'estomac il a enlevé ça, ben, il en demande encore.
Tout ce qui est autour, tu sais, généralement on fait un thé, des petits gâteaux, des trucs comme ça, tout ça. Non, de côté.
Que des sucres lents.
Un peu de poulet, puis.
Avec un peu de sauce, sans sauce.
Bon.
Il faut contraire, il faut bien manger. Il faut manger.
Tu as raison. Tu manges. Non, pas de harissa. Pas de harissa. Si tu prends une sauce qui n'est pas trop salée, parce que sinon tu annihiles l'intérêt. C'est-à-dire que si tu prends une sauce salée,
alors, donc, ce qu'il développe ici, il dit, je vais lire un peu dans les mots, je vais lire à l'oral. Velachen lo iskiru aramam vasmak shumtenit flamim satachuva avec le midadin rak avidui ou bakashat mechila. La seule chose que le Rambam, dans le fameux Rambam, que le Maïmonide, que je vous expliquais tout à l'heure, les fameux 4 chapitres qui parlent de la teshuva, là-bas, il dit que dans le cadre de la teshuva, il y a ce qu'on appelle le vidouille et demander mechila. C'est quoi vidouille ? Vidouille, c'est la confession. Alors je sais que c'est un terme qui a l'air un peu, d'accord ? Mais c'est eux qui ont pompé de chez nous. La confession. Bien sûr, ça existe.
La confession.
On fait que ça qui pour.
Non, mais
ah oui, non, mais.
Pas,
non, comme humain.
Avec un rabbin, allez voir.
Je voyais dans les
anneaux. Attends, attendez. Vous savez ce qu'on fait le jour de Kippour?
Tu veux rentrer dans le parc?
Pas dans le presbytère.
Venez derrière, on ferme le rideau.
Voilà, moi je voyais comme le confessionnel.
D'accord, je vais expliquer. On a une mitzvah de faire vidouille. À l'époque du Beth Amikdash, quand une personne voulait amener un korban, un sacrifice pour une avéra qu'il avait fait, il devait confesser sa avérote. Il devait dire au Kohen, j'ai fait telle et telle avéra, et je voudrais m'en excuser auprès d'Akadosh Baruch Hu. Oui, fallait l'exprimer. Le jour de Kippour, on fait le vidouille. Tous les alchet qu'on fait, alchet, shiratanu, alchet, 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 d'accord? Ça vient de la Gemara. D'accord? Shbem Mezid, etc. Tous ces alchet-là, on est en train de confesser. Normalement, chacun aurait dû faire une confession qui est taillée sur nos avérot. Ouais. Seulement, le problème, c'est que les Chachamim m'ont dit, les gens ne le feront jamais, parce que qui va dire à voix haute, même à voix basse, mais les gens qui sont à côté m'ont écouté, qui va se mettre à raconter sa avérot, va dire,
tout
ah,
t'as vu,
je savais pas qu'il avait, Alors, c'est pour ça, les Chachamim, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Il y a des coups de poing qui se perdent, parce qu'il entend qu'il a escroqué son
voisin. Du coup.
En un an, c'est pas possible de se rappeler toute la.
Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Chachamim? Ils ont mis un texte. D'accord? Un texte qui est générique, dans lequel on parle à peu près de toutes les catégories d'avérot qui existent.
Après, on se sent
et chacun, quand il va lire, il y a certaines lignes dans lesquelles il se sentira plus concerné, sans que les autres vont forcément se rendre compte. Mais c'est très très important le vidouille. Pourquoi? D'ailleurs, le vidouille doit se faire verbalement. Pourquoi? Encore une fois, dit Rambam, c'est pas que la teshuva c'est la confession. Non, la confession c'est une mise en condition, d'accord? La confession c'est une mise en condition, Rabotai. C'est bon? La confession, c'est une mise en condition pour que je réalise la avéra que j'ai fait. Parce que dit le Rambam très souvent, tant qu'on n'a pas dit verbalement ce qu'on a fait, on ne se rend même pas compte.
Bah, il faut verbaliser.
Et quand tu te mets à dire verbalement ce que tu as fait, c'est que je dis, mais attends, j'ai fait ça. Et des fois, le fait même de dire pardon, en disant pardon, tu dis, mais oui, c'est vrai, c'est grave ce que j'ai fait. Voilà pourquoi la Torah te demande de dire verbalement, même pas en pensée. Verbalement. Mais encore une fois, c'est pas que la teshuva c'est la confession, que la teshuva c'est le demander mechila, que la teshuva c'est le jeûne. Tout ça, c'est des mises en condition obligatoires, d'accord? Mais c'est uniquement des mises en condition pour t'aider à arriver au but ultime qui est qu'à un certain moment, il y a un déclic qui va se faire dans ma tête, que je vais me dire, il faut que je change. Si j'ai pas eu ce déclic, je suis passé à côté de Kippour. Et à côté de tout depuis Rosh Hashanah Kippour, le mois d'Eloul. C'est dommage, je passe à côté. Voilà, maintenant vous êtes prévenus.
C'est l'heure du changement.
Le changement.
C'est maintenant. Non, justement. Non, nous, on aurait dû dire, il faut décider de changer maintenant, et le changement, c'est sur toute la vie.
Si tu avais dit ça, c'est Sarkozy
qui avait gagné. Parce qu'il a dit, le changement, c'est maintenant, pour l'instant. Voilà. On l'a pas vu, le changement.
Si,
il a dit, le changement, c'est maintenant.
Mais il a pas précisé.
On l'a pas vu en notre faveur.
Pas en notre faveur, mais on l'a vu.
Putain.
Bon, mais bon. C'est comme ça.
C'est la crise.
C'est la crise.
Non, mais il reste 2 ans et demi à tenir, c'est bon. Bien.
Mais il franchit pas lui.
Certainement, mais bon.
Bon.
Le changement, c'est
alors.
C'est la peste.
2-3 ans et demi.
Maintenant, il dit. Il ramène ici. Il dit, on voit. Vous savez, dans la haftara qu'on va lire le jour de Kippour, la fameuse haftara de Yonah.
Ouais.
D'accord. On raconte là-bas. Que justement, Akadosh Baruch Hu l'a envoyé pour aller parler aux gens de Ninive, donc de Ninive, et pour leur demander de faire teshuva. Bon, il voulait pas y aller, etc. Dieu, il était dans le bateau, Dieu l'a fait tomber, il est tombé dans la baleine, vous connaissez la suite de l'histoire. Finalement, il a fini par arriver là-bas. Parce qu'il a sous-estimé la capacité de ces gens-là à faire teshuva. Qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Il leur a demandé de jeûner. D'accord? Ah! Quand on leur voit qu'il leur a demandé de jeûner, peut-être qu'on va comprendre que ça veut dire que la teshuva c'est le jeûne. Encore une fois, il a demandé à Zaken. Et l'erreur que beaucoup de gens font, c'est que comme dans beaucoup d'endroits dans la Torah, dans beaucoup d'histoires qui nous sont racontées, on voit que dès qu'on a voulu faire teshuva, on a demandé aux gens de jeûner. Donc les gens tout de suite font l'amalgame et disent « Ah, ça veut dire le jeûne, c'est la teshuva ». Non! On leur demande de jeûner uniquement pour les aider à se mettre en condition à mieux faire teshuva. Mais c'est pas ça la teshuva.
C'est une procédure pour t'aider
à avoir cette prise de conscience. D'accord? Après, chacun a son déclic. T'as des gens que c'est les sklirotes qui vont leur faire le déclic, t'as des gens, c'est Kippour, t'as des gens, c'est la Nehilat, chacun a son déclic. Mais il faut qu'à un moment, il y ait une rupture.
Des gens, c'est le Tania.
À un moment, il faut une rupture. T'es obligé. Si on n'a pas, dans les 40 jours depuis le mois d'Eloul, si on n'a pas eu à un instant cette rupture, cet instant dans lequel j'ai décidé, il faut que j'arrête, il faut que je change, on est passé à côté. D'accord ?
J'arrête dans les pains.
On ne dit pas ça.
Bon. Alors, néanmoins, je vais finir à l'oral. Hein. On va s'arrêter dans deux minutes, je vais finir à l'oral. Maintenant, comment ça se fait que dans la Gemara, on voit hein, que quand même, il y avait beaucoup de jeunes qui étaient instaurés. On dit par exemple qu'il y avait des rachamim, des fois, qui faisaient des averot. Des averot soft. Comme par exemple, maintenant, une fois, il a retourné la lanière des téfilines de la tête.
Oh là, c'est terrible.
D'accord. C'est du mauvais côté. Et on dit, il a jeûné 40 jeunes pour ça. T'en avais un autre une fois, il a manqué de respect à son collègue.
Là, il a fait ça pour se pardonner, pour se faire pardonner.
Ah, voilà, je vais expliquer.
Ah oui.
Donc, t'as un autre une fois, on raconte qu'il avait manqué de respect à son collègue. D'accord? Il a dit, j'ai honte de toi. L'autre, il a dit un commentaire, il a dit, j'ai honte de ce que tu viens de dire. Bon, des trucs classiques que nous on aurait fait. Et on dit que, tellement il s'en est voulu, bien sûr, il s'est excusé tout ce que tu veux, c'est que ses dents ont noirci tellement il a gêné. D'accord. D'accord. Ses dents ont noirci tellement il a gêné. D'accord. Alors, dans ce cas-là, comme la question que Marcel y pose, d'accord. A priori, quand on lit ça ici, on peut avoir l'impression que la teshuva c'est le jeûne. Voilà, on se dit, ces gens-là, ils ont voulu faire teshuva, ils ont jeûné. D'accord. Bah oui, on voit bien qu'ils ont jeûné. D'ailleurs, on dit qu'au nom du Harizal, mais ça c'est déjà pour les kabbalistes, on dit que le Harizal a donné un nombre de jeûnes pour toutes les fautes.
Ah,
d'accord. Oui, pour toutes les fautes. Oui. Par exemple, celui qui a consommé sans faire exprès du vin non cachère, alors il va jeûner le même nombre, accrochez-vous, que Yaïn. Yaïn, c'est Yud, Yud, Nun. 10, 10, 50, ça fait combien?
70
jeunes, pas de problème, on paye.
Sans boire de vin.
On passe à la caisse.
C'est terrible.
70 ans, sans boire de vin.
Non. C'est le Harizal. Donc, en tout cas, de tout ça, on voit quoi? On voit qu'a priori, la teshuva, c'est le jeûne.
Ah oui, c'est bah oui, là
ça le fond pour Hazel.
Réponse de l'Admor Hazakel.
Il y a une différence non. entre la teshuva et le pardon. Quoi,
non, le pardon, il est accordé automatiquement.
Tu ne vas pas être jeûné pour se pardonner, pas pour faire teshuva.
Non, le pardon, il est accordé quand tu fais teshuva. Le pardon, il est automatique quand tu fais teshuva.
On va refaire la faute.
Ça, le pardon, c'est pas mon problème. Oui, mais regarde, Marcel. Marcel, nous, on a un mode d'emploi. Le pardon, c'est pas notre problème. Le mode d'emploi, il te dit, tu as fait une bêtise, voilà ce que tu dois faire, voilà la procédure. T'appuies sur cette touche. Maintenant, qu'est-ce que ça a fait dans la machine? J'en sais rien, moi, ce que ça a fait. Probablement, ça nous a donné le pardon, parce que Dieu a dit que ça donne le pardon. Oui. Je vois pas comment ça m'a donné le pardon. Mais je suis le mode d'emploi. Mais je reviens à la question.
C'est pas Dieu qui dit ça, c'est Raham.
Non, la teshuva, c'est écrit dans la Torah.
Oui, mais
si mis à la Torah. Alors justement, les jeunes, on voit dans beaucoup d'endroits qu'on parle des jeunes. Réponse de Mourazaken, il te dit, encore une fois. Il te dit, en vérité, il y a des gens. La teshuva, excusez-moi, c'est bon, on se concentre. Les jeunes, c'est pas seulement une mise en condition. On a expliqué que les jeunes, c'est une mise en condition, mais tu dis, mais c'est pas qu'une mise en condition. Le jeune, des fois, peut servir aussi à parfaire la teshuva. Et donne un exemple, regardez. Imaginez, par exemple, quelqu'un qui a fait une bêtise. Il a manqué de respect à quelqu'un d'autre. Il s'excuse. L'autre, il dit, je t'excuse. Mais c'est plus comme avant. Il sent que c'est plus comme avant. D'accord? Il y a eu quelque chose qui a été cassé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui amener un bouquet de fleurs. Mais attention, le bouquet de fleurs, c'est pas le pardon, parce que si tu lui amènes le bouquet de fleurs pour t'excuser, tu le prends à la figure, ton bouquet de fleurs. D'accord? Ouais. On est d'accord? Ah bah oui. Tu manques de respect à ta femme, tu lui amènes un bouquet de fleurs. Ça marche pas comme ça, non. C'est quoi le bouquet de fleurs? Le bouquet de fleurs, c'est d'abord après l'excuse. D'abord, on s'est excusé. Et l'autre t'a excusé. Tu vas amener un bouquet de fleurs pour parfaire l'excuse. Pour dire voilà.
C'est pas l'excuse.
D'accord? Exactement, c'est pas l'excuse. Pour parfaire, pour la rendre plus parfaite, pour dire voilà. Je sais que je le mérite pas, mais j'aimerais que les choses reviennent comme avant. Je donne un cadeau. Mais c'est pas le pardon. C'est seulement pour parfaire le pardon. Parce que celui qui veut utiliser ça comme pardon, tu le prends à la figure. Vous voyez ce que je veux dire? Si, imagine-toi quelqu'un, il t'a blessé. Et il dit, tiens, je donne un cadeau. Voilà, tiens, prends une montre. Tu le jettes à la figure, tu dis, j'ai pas besoin, t'en gardes là ta montre.
Ça dépend.
D'accord?
Mais comme vous, t'es une fierté comme t'en es pas des...
Si t'es fier comme un Marocain, même si c'est une Rolex.
C'est
une Rolex, on prend?
Il la prend? Ça dépend si c'est une Rolex du Maroc ou pas.
Parce
que si c'est une Rolex du Maroc, tu peux y aller.
Si tu viens du Maroc, je veux pas.
Ça veut dire que c'est même plus une mise en condition alors.
Alors justement, c'est la réponse qu'il donne ici. Il dit, tout à l'heure, on a expliqué que le jeûne, c'est une mise en condition. Le jeûne, c'est une mise en condition. Mais des fois, le jeûne vient aussi en complément. D'accord? C'est-à-dire une fois que la personne n'a jamais été en condition, il a toujours regretté ce qu'il a fait, mais il sent que c'est plus comme avant, avec Dieu. C'est-à-dire, il sent que sa neshama ne communique plus avec Dieu comme avant. Il sent qu'il a un certain blocage. Alors, il va rajouter. Il va faire des jeûnes. En vérité, dit l'Admor HaZaken, les jeûnes sont l'équivalent des sacrifices qu'il y avait à l'époque du Beth HaMikdash. Alors, grande erreur. Les gens pensent que, à l'époque du Beth HaMikdash, une personne faisait une avéra, et il venait au Beth HaMikdash, il offrait un corban, et ça y est, il est pardonné.
Oui.
C'est pas chez nous, ça.
Ah, ça va,
mais pas du tout. C'est pas que ça suffit pas, c'est rien, ça. Le corban, c'était seulement pour parfaire la teshuva.
Que... vidéos, il a envoyé
justement, corban, alors... une fois qu'il a déjà fait teshuva, et qu'il a déjà regretté intérieurement, et qu'il a décidé de ne plus recommencer, il va amener le bouquet de fleurs à Kadosh Baruch Hu. Je ne sais pas pourquoi c'est un bouquet, mais en tout cas pour Dieu c'est un bouquet. Okay. Il amène le bouquet de fleurs à Kadosh Baruch Hu, il dit voilà mon bouquet, c'est le cadeau, c'est le corban. C'est tout. Mais ça ne veut pas dire que quand j'ai amené un corban, ça y est, j'ai payé, c'est bon, je suis pardonné. Non, hein, garde ton argent, on ne veut pas de ton argent. Tu crois qu'il a besoin de ton argent? Il n'a pas besoin de notre argent, Kadosh Baruch
Hu.
D'accord? Donc, à Kadosh Baruch Hu, quand il demande de donner la tzedaka, j'arrive tout de suite. Quand il demande à Kadosh Baruch Hu de faire, à l'époque du Beth HaMikdash, d'amener un sacrifice, le sacrifice était seulement pour parfaire la teshuva. En complément. Donc, on a expliqué qu'il y a des mises en condition et il y a des compléments. Pour être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, comme avant. Avec le temps, quand le Beth HaMikdash a été détruit, les sacrifices ont été remplacés par les jeûnes. Et aujourd'hui, que nous ne sommes plus en capacité de jeûner comme à l'époque, il y avait des gens qui jeûnaient tous les lundis, jeudis. Aujourd'hui, que nous ne sommes plus capables de jeûner comme les gens de l'époque, on a remplacé ça par la tzedaka. Voilà pourquoi aujourd'hui, on préconise de donner un maximum de tzedaka. Pas en tant que... c'est pas que la tzedaka, c'est la teshuva. Pas en tant que mise en condition non plus. En tant que complément. Complément à la teshuva. Vous avez bien compris la différence? Il y a des mises en condition et il y a des compléments. Par exemple, Kippour, le jeûne de Kippour, c'est quoi? Rabotai, le jeûne de Kippour, c'est un complément ou une mise en condition? C'est quoi le but du jeûne de Kippour? Le but du jeûne de Kippour, c'est une mise en condition pour t'aider à faire que c'est un échama qui va s'exprimer. Ça, c'est le jeûne de Kippour.
Les caparotes, c'est le complément.
Les caparotes, c'est aussi une mise en condition. Parce que quand on fait les caparotes, tu te dis ce qui arrive à l'animal, on va lui couper la tête. Bah, aujourd'hui, arrive à moi.
Vous avez une voix, c'est là.
Mise en condition. D'accord? Par contre, quand on a vu à l'époque du Beth HaMikdash qu'on offrait les sacrifices, après c'était remplacé par des jeûnes, après c'était remplacé par la tzedaka, c'est pas des mises en condition. Ça, c'est seulement un complément pour être chéri aux yeux d'Akadosh Baruch Hu comme avant. Alors, je vois que cette notion n'est pas encore très très bien développée. Donc, Be'ezrat Hashem, on la développera la semaine prochaine plus longuement dans notre deuxième cours sur la Teshuva. D'accord? On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on a eu au moins l'occasion de développer trois catégories de mitzvot et expliquer rapidement qu'est-ce que c'est la Teshuva. Chayav Karet.
Non, mais la troisième catégorie.
Bruno
Karet. Et celui qui a fait une avéra sur le cas de Chayav Karet.
Merci. Et ça rentre pas dans les choses.
Si, mais c'est des négatifs plus graves. On expliquera ça aussi la semaine prochaine. Pourquoi une avéra Chayav Karet, c'est plus grave. Ok? Voilà. Shana Tova à tous.
Il y en a une droite, hein.
Oui, bah c'est à quelle heure, c'est la nuit. C'est bon là. Hein.